Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nos auditeurs sont 50 000 de plus à retrouver chaque jour Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité. J'en profite pour saluer aussi tous ceux qui nous écoutent grâce au téléchargement, que ce soit dans les transports en commun, pendant leur footing ou même en randonnée, si j'en crois vos nombreux messages. Alors à tous, un grand, très grand merci.
3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang, c'est le titre du nouveau livre des frères Bogdanov qui sont aujourd'hui les invités de Franck Ferrand.
Eh oui, n'est-ce pas? Je suis ravi de recevoir Grishka et Igor Bogdanov, grâce à qui, pour moi, la science a pris des couleurs. Alors nous allons parler de cette révolution qui a été, au siècle dernier, on peut dire, un bouleversement des consciences d'une certaine manière, cette théorie du Big Bang, dans laquelle nous vivons toujours. Jusqu'où? C'est une des questions que je leur poserai tout à l'heure.
Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Stanislas sur l'origine de la plume blanche que les femmes remettaient lors de la Première Guerre mondiale aux soldats réformés.
Oui, à mon avis, Stanislas est un fan de Downton Abbey, puisqu'on voit ça dans une des saisons. Nous sommes fans de physique, j'allais dire de physique amusante, non, de physique passionnante. L'heure est venue de plonger dans le cosmos et les étoiles.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Avec, je crois que ça doit être 5 sur 20, ma note de physique au baccalauréat. Donc n'attendez pas de moi un cours de physique théorique. Mes invités seront nettement plus calés pour le faire. Simplement, je vais essayer, et si je commets des erreurs, ils rectifieront bien entendu. Je vais essayer de vous raconter un peu cette histoire du Big Bang. Vous savez que notre galaxie, la Voie lactée, quand vous regardez les étoiles, en tout cas c'est ce qu'on en voit, hein, c'est l'épaisseur, c'est la tranche de la galaxie, si je puis dire. Et puis toutes les galaxies autour de la nôtre, toutes les étoiles, toute la matière qui forme l'univers étaient, pense-t-on maintenant, alors il y a très longtemps, on verra combien de temps, étaient empilées, si vous voulez, étaient resserrées dans un seul endroit. Ces éléments formaient un volume d'énergie chaude de la taille, dit-on, d'un pamplemousse. Et il y a eu cette espèce de Big Bang, et à partir de ce moment-là, ça s'est dilaté. Ce Big Bang serait survenu, selon les calculs des astronomes, il y a 13 820 millions d'années. Pendant très longtemps, on n'imaginait pas les choses du tout comme ça. On voyait l'univers comme une chose statique qui existait en quelque sorte telle quelle, qui ne bougeait pas. Il a fallu attendre le début du XXe siècle, il a fallu attendre précisément les années 1920 pour qu'on ait cette notion d'expansion, d'expansion continue de l'univers. Quand je vous dis qu'il a fallu attendre les années 1920, je vous propose d'aller nous placer un certain lundi 18 septembre 1922, il est très tôt, il est 7h du matin, et rue Haberland, à Berlin, monsieur Einstein, et oui, le voilà, il habite là depuis pas très longtemps, depuis 1917, ça fait 5 ans qu'Einstein habite rue Haberland, il est au 4e étage de l'immeuble, il est en train de boire son café. Il est attablé là à sa table de travail, et devant lui, le magazine scientifique de référence Zeitschrift für Physik, qui l'attend depuis 3 jours. Il a ouvert le magazine à la page 377 parce qu'il y a là un article d'un certain Friedman, Alexander Friedman, qui est un grand mathématicien russe. À l'époque, il n'est pas encore vraiment connu. Le titre de l'article a de quoi fasciner Einstein, évidemment, en tout cas de quoi l'intriguer, « Sur la courbure de l'espace ». Einstein est en colère, disons-le, puisque le contenu de cet article explique que, selon les calculs de Friedman, l'univers aurait pu avoir un commencement. Encore une fois, je vous rappelle qu'au départ, on part d'un point de vue fixiste. L'univers est fixe, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Einstein a publié en 1916 sa célèbre théorie de la relativité générale, où il explique que les éléments composés d'énergie déforment l'espace-temps en créant un champ gravitationnel qui touche, qui affecte toute matière qui le traverse. dans ses calculs, Einstein a introduit, il a été obligé d'introduire ce qu'on appelle la constante cosmologique. Alors, quand on dit ça comme ça, on se dit « oh là là là, ça c'est pas une émission pour moi ». Mais c'est tout simple, si je puis dire. À partir du moment où vous mettez la gravité en avant dans tous les calculs sur l'univers, vous vous doutez bien que cette gravité, elle ne peut faire que se resserrer les éléments qui composent cet univers. Et donc, normalement, il devrait y avoir contraction. Pour qu'il n'y ait pas de contraction, on est obligé d'ajouter aux équations et aux calculs cette fameuse constante cosmologique qui maintient le cosmos en l'état et qui évite cette fameuse contraction. C'est une sorte de, si vous voulez, c'est une constante qui est ajoutée pour, c'est une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire? On a ajouté un élément au calcul. C'est une fiction d'une certaine manière, mais c'est ce qui permet d'expliquer le phénomène. Alors, concrètement et scientifiquement, Friedman explique que les équations de la relativité générale sont faussées. Et il critique cette fameuse constante cosmologique. Vous savez, les scientifiques n'aiment pas ça quand on est obligé d'ajouter un élément pour décrire une réalité, bien entendu. Il estime, lui, de son côté, ce Friedman, ce mathématicien russe, il estime qu'il suffit de retirer la constante cosmologique pour déboucher sur la véritable solution. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre la situation, eh bien, c'est que l'univers est en pleine expansion en vérité. Et s'il ne se resserre pas sur lui-même, mais c'est précisément parce qu'au contraire, il est en train de s'étendre de plus en plus. C'est une idée extraordinaire. Les frères Bogdanov nous disent « L'idée de génie de Friedman est finalement toute simple. C'est la dilatation de l'espace-temps qui empêche l'univers de s'effondrer sur lui-même et non pas cette constante cosmologique que jusqu'alors les physiciens étaient obligés d'ajouter à leur calcul. Donc un univers en expansion, c'est pas la première fois qu'on évoque la thèse, hein, on l'avait déjà fait 5 ans plus tôt, Wilhelm de Sitter avait publié sur le sujet. Mais Friedman va encore plus loin. Il estime qu'à partir du moment où il y a expansion, c'est qu'il y a bien une origine. Et donc l'univers aurait connu un commencement il y a des milliards d'années, évidemment. La plupart des astronomes, à l'époque, sont parfaitement persuadés du contraire. Pour eux, l'univers n'a ni commencement, ni fin. Einstein rejette la thèse de Friedman et il ne perd pas de temps. Hein. L'après-midi même, dès le 18 septembre 1922, il écrit au Zeitschrift für Physik une note qui sera publiée en novembre suivant. Et voilà ce que dit Einstein. « Les résultats concernant l'univers non stationnaire contenus dans le travail de Friedman m'apparaissent très suspects. » Quand c'est Albert Einstein qui dit ça, évidemment, ça embête un peu les gens. En réalité, dit-il, il s'avère que la solution proposée ne satisfait pas les équations du champ. Ne me demandez pas ce que c'est ça, on y reviendra tout à l'heure. Toujours est-il que Friedman prend comme camouflet la réponse d'Albert Einstein. Parce qu'en plus, il admire Einstein, il est un de ses fervents lecteurs. Il est assez choqué, évidemment, que l'autre ne veuille rien entendre. Et dans la nuit du 6 décembre, il va de son côté répondre à Einstein. Il fait une lettre avec son élève Vladimir Fock et voilà ce qu'il dit. « Considérant que l'existence possible d'un univers en expansion offre un certain intérêt, je me permets de vous présenter ici mes calculs. Si vous les trouviez corrects, auriez-vous s'il vous plaît la bonté d'en informer les éditeurs du Zeitschrift für Physik et peut-être dans ce cas pourriez-vous rectifier votre note ou bien publier une partie de cette lettre ?» Et c'est son honneur qui est en jeu à ce mathématicien. Il se dit « je ne peux pas avoir Einstein contre moi quand même, mais c'est joliment demandé quand même, vous avouerez ». Alors Friedman va être obligé d'écrire à plusieurs reprises, Einstein ne prend même pas la peine dans un premier temps de répondre, Friedman essaie de le rencontrer en vain, pour Friedman tout ça, ça doit être très dur à vivre, bien entendu. Et puis, on est en mai 1923, vous voyez, juste au printemps suivant, Einstein vient passer quelques jours à Leyde, aux Pays-Bas, chez Paul Ehrenfest, qui est son ancien prof de Saint-Pétersbourg, un théoricien, un physicien autrichien qui est par ailleurs un de ses amis. Il y a là également le physicien Yuri Krutkov, qui se débrouille pour rencontrer Einstein. On est juste après le discours d'adieu du physicien Hendrik Lorentz. Il faut vous dire que tous ces gens se connaissent, qu'ils se répondent par courrier, par publication interposée, bien entendu. Lorentz, c'est le prix Nobel de physique en 1902, s'il vous plaît, un des tout premiers prix Nobel. Qui est justement, on est là au domicile d'Ehrenfest. Le but de tous ces gens, et notamment de Krutkov, c'est de convaincre Einstein que Friedman n'a peut-être pas tellement tort et que l'univers pourrait bien avoir eu un commencement. Alors il faut imaginer une de ces soirées où les arguments volent, où les positions sont de l'ordre de l'empoignade. Vous voyez, qui va avoir raison? Alors oui ou non, est-ce que l'univers a eu un commencement? Est-ce qu'il est en expansion? Ou est-ce qu'il est stable et fixe? Einstein se bat pied à pied, puis petit à petit se rend compte que ses amis ont peut-être pas tellement tort, et il a cette honnêteté intellectuelle qui lui a lui permettre, à terme, de leur donner raison.
Un extrait des planètes de Gustav Holst, et ici Jupiter. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur les origines du Big Bang.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à la création, à la fondation du Big Bang.
Vous imaginez bien qu'à l'époque, tous ces débats scientifiques mettent en jeu des considérations nationales, pour ne pas dire nationalistes aussi. On est un peu chauvin. Rappelez-vous d'ailleurs les débats qui font rage exactement à la même époque à l'Académie des sciences, autour notamment des travaux des Curie. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu Berlin contre Saint-Pétersbourg, ou plus exactement Petrograd, puisque c'est le nom qu'on a donné à la ville avant qu'elle ne devienne Leningrad deux ans plus en 1925, si même mémoire est bonne. Donc, c'est Petrograd contre Berlin, d'une certaine manière, et Krutkov est ravi d'avoir réussi à ébranler Einstein. Voilà ce qu'il écrit à sa sœur. « J'ai terrassé Einstein dans la dispute avec Friedman, l'honneur de Petrograd est sauf. » Vous voyez. Et le 21 mai 1923, effectivement, Einstein, qui est de retour à Berlin, écrit au magazine Zeitschrift für Physik, comme monsieur Krutkov m'en a convaincu et grâce à une lettre de Friedman, je dois reconnaître que mon objection était fondée sur une erreur de calcul. Ça quand même, vous savez, moi qui me bats contre un certain nombre de grands professeurs depuis des années sur quelques sujets que vous connaissez, j'admire beaucoup l'humilité de celui-ci, d'être capable de reconnaître son erreur. Je tiens à présent, dit-il, les résultats de M. Friedman pour correct. Ceci apporte un nouvel éclairage et la note est publiée là dans la foulée le 29 juin 1923. Vous imaginez le triomphe de Friedman à Petrograd, il est d'un seul coup très populaire, il y a beaucoup d'étudiants qui se battent pour assister à ses cours. Alors il y en a notamment quatre qu'on va appeler bientôt les quatre mousquetaires. Lev Landau, qui a passé son bac à 13 ans, vous voyez un peu le genre de phénomène, à 16 ans, il a 16 ans donc là à l'époque, en 1924. Dmitri Ivanenko, qui lui est incollable sur tout ce qui concerne la physique. Matvey Bronstein, qui est passionné par l'atome, il le prouvera ô combien évidemment par la suite dans les travaux qu'il publiera. Et puis, George Gamow. Gamow est un grand spécialiste de la théorie de la relativité, il a 20 ans à l'époque. Il faut voir un peu le genre de personne que c'est Gamow. Il aime bien tout ce qui est un peu étrange. Je vous donne une anecdote, par exemple. Il a fait une découverte. Un jour, il arrive, il écrit sur le tableau, il écrit comme ça 9-1 qui se suivent. 111, 111, 111. C'est-à-dire, ça fait 111 millions, 111 111. Et il met ça au carré. C'est-à-dire 111 millions, 111 111 multiplié par 111 millions, 111 millions, ça fait 12, tenez-vous bien, 12 345 678 987 654 321. Vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a bu aujourd'hui? Non, parce que si vous lisez le chiffre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, ce genre d'histoire, ça le fascine, Gamow. Vous voyez le genre de personnage. Ça fait un chiffre qui est un palindrome, si vous voulez, pour aller au bout de la définition. En 1925, toute cette bande d'étudiants, évidemment, ne manque aucun cours de Friedman. Ils sont convaincus maintenant que l'univers a un commencement. Or, et c'est là qu'arrive une autre découverte essentielle, dans un article du 23 novembre 1924, vous voyez que ça se bouscule au portillon, un article du New York Times, Un jeune astronome, il a une trentaine d'années, il est à l'époque totalement inconnu, révèle une découverte. Il s'appelle Edwin Hubble, ce garçon, qui est un grand blond assez athlétique, plutôt genre sportif. Vous voyez, il est joueur de basketball, il voulait devenir champion de boxe, Hubble. Il a fait une observation à partir d'un télescope qui est un monstre en soi, le plus grand télescope du monde, Hooker, qui se situe au mont Wilson, en Californie. Il a été mis en service quelques années plus tôt. Pour vous donner une idée du télescope, dites-vous que sa lunette, la lunette d'ouverture, du côté de l'observation, fait 2,54 m d'ouverture. Vous voyez un petit peu le diamètre. Grâce à cet extraordinaire télescope qui a permis d'identifier un certain nombre d'étoiles, Hubble est devenu un spécialiste. Il sait parfaitement utiliser cette lunette. Il calcule la distance qui sépare certaines étoiles de la Terre et il découvre qu'elles se trouvent, ces étoiles, beaucoup, beaucoup trop loin pour faire partie de la Voie lactée, pour être donc dans notre galaxie. Bref, il a découvert ce qu'il va appeler des univers. Il a découvert l'existence d'autres galaxies. Ça commence, vous avouerez qu'on est en train d'ouvrir quand même de très grands horizons. C'est comme si d'un seul coup on avait ouvert un écran panoramique sur l'univers. Le 1er janvier 1925, les résultats de Hubble sont présentés à la Société américaine d'astronomie avant d'être publiés dans une grande revue. Et à Leningrad, puisque maintenant c'est Leningrad, Friedman se réjouit de la découverte de Hubble. En juillet 1925, il décide de réorganiser ses cours pour parler de cette hypothèse et pour introduire les nouvelles galaxies dans sa théorie de l'expansion de l'univers, bien entendu. Sauf qu'en plein été, il s'envole à bord d'un ballon stratosphérique pour aller effectuer des mesures météorologiques. C'est un peu ça les savants, vous savez, ils font plein de choses. Il monte à plus de 7400 mètres d'altitude, ce qui entre parenthèses est le record de l'époque. Mais l'air est glacé, là, il est à moins 50 degrés. Lui-même ne portait qu'un simple manteau de laine. Il n'a pas de bouteille d'oxygène, sa gorge blanchit, ses poumons souffre évidemment, et à son retour il est pris de vertige et est très affaibli. Il va partir s'installer au bord de la mer Noire pour se refaire une santé. Il est trop tard, puisqu'en septembre de cette même année il va mourir. Il n'a que 37 ans, Friedman. Alors il laisse derrière lui les fameux quatre mousquetaires qui sont un petit peu orphelins de leur prof, mais qui ont bien l'intention de ne pas laisser les choses en plan et qui ont bien l'intention de se montrer dignes du maître.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Pour tout savoir sur les origines du Big Bang, restez avec nous. Franck Ferrand revient dans un court instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour au Big Bang et à sa création avec vous, Franck Ferrand.
Alors Friedman est mort, il a laissé, donc Friedman, ce mathématicien russe qui est à l'origine par ses calculs de la découverte de cette théorie de l'expansion de l'univers, qui plus tard s'appellera le Big Bang, on verra tout à l'heure avec mes invités dans quelles circonstances on a appelé ça le Big Bang. Il laisse derrière lui quatre étudiants qui, et ça, il faut faire intervenir la politique dans cette histoire et l'histoire, parce qu'évidemment, toutes ces théories ont des répercussions philosophiques. Et évidemment, si vous dites qu'il y a une expansion de l'univers et donc un point d'explosion initiale, ça veut dire qu'il y a une création de l'univers. Et qui dit création nous ramène évidemment à une théologie de l'univers. Et ça, dans un régime matérialiste comme peut l'être l'Union soviétique de l'époque. C'est Staline qui vient de prendre le pouvoir à cette époque. Vous imaginez bien que ça ne se passe pas comme ça. Le chef de la GPU, qui est la police d'État à l'époque, menace personnellement nos quatre étudiants dont je vous parlais tout à l'heure, nos quatre mousquetaires qui, peu à peu du reste, ne vont pas avoir d'autre choix que de changer de domaine. On voit notamment Gamow intégrer l'université de Göttingen en Basse-Saxe. Il va désormais se consacrer à des travaux sur la radioactivité. On a envie de dire, mais quel gâchis! De quoi se mêlent les hommes politiques? Depuis quand les régimes doivent-ils dicter aux scientifiques ce que les calculs, l'observation, l'intuition leur permettent de définir et de démontrer? Mais c'est toute la question. Vous allez voir, on y viendra tout à l'heure, que le régime soviétique d'un côté, le régime nazi de l'autre, iront encore beaucoup plus loin dans la condamnation non seulement de la théorie du Big Bang, si je puis dire, mais aussi dans la condamnation de ceux qui l'ont mise sur pied. Alors, Que va-t-il se passer? Est-ce que tout ça va disparaître? Est-ce que ça va mourir à cause du régime soviétique? Eh bien, c'est là que c'est extraordinaire. C'est l'histoire de la science. Vous avez l'impression d'une sorte de grand manuscrit qui passerait comme ça de main en main, de cerveau en cerveau, et un palimpseste sur lequel les savants ne cessent de réécrire et d'aller plus loin et de pousser plus loin les découvertes de leurs prédécesseurs. Vous savez, il y a dans les cathédrales ces vitraux qui nous montrent toujours les évangélistes sur les épaules des prophètes. Hein, cette idée toujours de grimper sur les épaules des grands devanciers pour essayer d'atteindre à des vérités supérieures. C'était sans doute vrai dans le domaine de la théologie, ça l'est plus encore, évidemment, dans celui de la science, où la notion même de généalogie de la pensée n'est peut-être pas impossible. Alors là, en l'occurrence, il y a un bonhomme qui est un chanoine catholique, belge, qui plus est un abbé, vous voyez le genre. C'est pas le professeur Tournesol, mais enfin on n'en est pas très loin. Il s'appelle Georges Lemaître, il est professeur à l'université de Louvain, docteur en physique. Il est lui fasciné par les équations d'Einstein, il se lance dans les calculs. Il arrive à la même conclusion que Friedman, pour lui l'univers est en expansion. Il faut savoir que, et c'est très important de le souligner, à l'époque lui ne connaît pas l'existence des travaux de Friedman. On est en 1927 seulement. Et en avril 27, ses thèses sont publiées dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles avec ce titre « Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants ». Tout est dit, de rayons croissants. Alors, Lemaître va lui aussi essayer de parler à Einstein, de convaincre Einstein à l'occasion du congrès de Bruxelles qui réunit au célèbre hôtel Métropole toute l'élite mondiale des physiciens. Lemaître arrive à attraper Einstein, si je puis dire. Il n'a pas réussi à le voir dans les couloirs de l'hôtel, mais il le croise au parc Léopold. On est quand même à 1 km de l'hôtel. Il pleut. Einstein est trempé. Il est déjà d'ailleurs énervé par Niels Bohr, à qui il a dit à propos, vous savez, Niels Bohr, le père de la physique quantique, Einstein lui a dit que Dieu ne jouait pas au dé, vous connaissez la fameuse formule. Et là maintenant, voilà cet abbé. Bon, alors il l'écoute. Monsieur l'abbé, lui dit-il, vos mathématiques sont justes, mais votre physique est horrible. Fin de la conversation. Et d'ailleurs, en s'éloignant, Einstein dit, tout ça, c'est important cette déclaration, tout cela suggère trop la création. Lemaître et ses découvertes à ce moment-là vont tomber dans l'oubli, pas pour longtemps, parce que 4 ans après la découverte de l'existence de milliers de galaxies dans l'univers, Hubble, là-bas aux États-Unis de son côté, va faire une nouvelle découverte encore plus étonnante. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire de spectre décalé vers le rouge. Je pense que mes invités seront beaucoup mieux placés que moi pour vous l'expliquer. Bonjour messieurs, merci d'être ici. Vous avez compris que j'ai grand besoin de vos services. Nous allons donc continuer cette histoire parce que nous ne sommes finalement qu'au début du Big Bang.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec vos invités, Igor et Grishka Bogdanov, tous les deux écrivains scientifiques, auteurs de 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang aux éditions Le Courrier du Livre.
Alors, lequel commence, Igor, Grishka? Allons-y, Grishka, peut-être, pour expliquer ce que Hubble découvre dans sa lunette de nouveau.
Franck, vous avez parlé tout à l'heure d'humilité, mais on ne peut être que très humble face à ce talent magnifique pour nous faire revivre ces moments considérables, ces moments évidemment parfois dramatiques et spectaculaires donc de l'histoire du Big Bang. Alors, vous avez mis en évidence le fait que la découverte par Hubble en 1929 donc de la fuite des galaxies est fondée sur un phénomène physique. Ce phénomène, on l'appelle l'effet Doppler. Doppler est un grand physicien et on entend ce phénomène lorsque, par exemple, vous voyez une voiture qui se rapproche de vous. Vous avez un son qui va en montant et puis, une fois que la voiture vous a dépassé, vous avez le son qui ça s'inverse et vous avez l'impression que ça s'en va et ça descend. C'est la même chose pour ce qui concerne donc les phénomènes visuels. Lorsque vous avez un objet qui vient vers vous, la lumière, c'est une longueur d'onde, et cette longueur d'onde, évidemment, la fréquence augmente. Et puis, donc, la longueur d'onde diminue. Et puis, lorsque l'objet s'éloigne, la longueur d'onde augmente, évidemment.
Ça veut dire que la couleur change.
Lorsque vous avez une longueur d'onde courte, c'est bleu. Lorsque vous avez une longueur d'onde longue, c'est rouge. Et là, pratiquement toutes les galaxies, donnait un spectre, c'est-à-dire une lumière, qui était dans le rouge. Ça voulait dire, indubitablement, que ces objets s'éloignaient. Et donc c'est là qu'on avait la preuve physique, visuelle, de l'expansion de l'univers.
On a eu, avec Friedman, la démonstration mathématique. On a maintenant, avec Hubble, la démonstration physique. On voit, en quelque sorte, les corps célestes s'éloigner.
Exactement. Et ça, ça change tout. Parce que vous vous souvenez du combat qui a eu lieu en 1922-1923 entre Einstein et Friedman. Einstein était convaincu que Friedman avait tort. Eh bien là, à l'invitation de Hubble, Einstein va se rendre au Mont Wilson.
Donc voilà qui arrive aux États-Unis.
Il arrive aux États-Unis. Il se rend au Mont Wilson et là, il va coller son œil à l'objectif du fameux télescope Hooker, 2,54 m d'ouverture, le plus grand télescope du monde. Et là, il est obligé de se rendre à l'évidence. En effet, il y a un décalage du spectre émis par les galaxies vers le rouge. Ça veut dire que, en effet, l'expansion est indubitable. Et ça veut dire aussi que si on rembobine le grand film cosmique à l'envers, eh bien, on va trouver un moment où l'univers était concentré dans un rayon tout petit, petit.
Et voilà, et ça, nous en venons au point qui fâche. On va y venir dans un instant. Juste, je voudrais immortaliser cette image, parce que moi j'aurais adoré être une petite souris ce jour-là dans cet observatoire en pleine Californie avec Einstein, le vieux monsieur Einstein maintenant, qui approche son œil de la lunette, et puis derrière lui il y a Hubble, il y a son assistant d'ailleurs qui s'appelle Walter Adams, et ils sont là tous les deux, ils attendent de savoir ce que va dire Einstein, et finalement Einstein dira: c'est l'explication de la création la plus belle et la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Donc là, on est...
Oui, il accepte de parler de création.
Création.
C'est la première fois. Jusqu'alors, en tant que scientifique rationaliste, il était très cabré contre cette idée. Et là, en l'observant, il est obligé d'admettre.
Vous avez dit en 1930, là, c'est
là, on est en 31.
31.
En 31, voilà. C'est 2 ans après la découverte.
Alors, évidemment, en 1931, c'est Staline qui est au pouvoir en Union soviétique. Parce qu'on fait une émission d'histoire ici, je me permets de vous le rappeler quand même. c'est 2 ans plus tard, Hitler qui va prendre le pouvoir en Allemagne. Et ces régimes, que ce soit le régime stalinien d'un côté ou le régime nazi de l'autre, ne veulent pas entendre parler de ces nouvelles théories. C'est étonnant d'ailleurs.
Il n'en est pas question. Et on se rend compte que les grands régimes totalitaires, les deux grands régimes du XXe siècle, ont été mais farouchement opposés à l'idée que l'univers pouvait avoir une origine. Alors pourquoi ? Dans le premier cas, vous l'avez cité très élégamment tout à l'heure, il s'agit d'une contradiction au matérialisme historique, au matérialisme marxiste. La matière est éternelle pour les marxistes purs et durs. Donc elle ne peut pas avoir d'origine. Donc l'univers n'a pas d'origine.
Mais ce qui veut dire d'ailleurs qu'il va être condamné à mort, le Gamow dont
je
parlais
tout à
l'heure.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ça va déboucher sur une impitoyable éradication de tous ceux qui ont osé soutenir cette idée, en particulier les 4 mousquetaires. Le premier, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Lando, condamné à 10 ans de travaux forcés. Le second, qui était quand même un personnage a priori brillantissime,
Bronstein,
il va être, lui, hélas, fusillé après avoir été torturé. Ce qui est épouvantable, en 37. Et Gamow, lui, il ne doit son salut qu'à Marie Curie. Car, au cours d'un fameux congrès qui s'est tenu en Belgique, il arrive enfin, en joignant Marie Curie, il arrive à s'évader, c'est-à-dire à quitter pour toujours l'Union soviétique. Et là, il est condamné à mort.
Un autre qui a été condamné à mort, on le sait, mais il ne faut jamais manquer l'occasion de le rappeler, c'est Einstein lui-même.
Einstein également condamné à mort. Condamné à mort par qui ? Par le régime nazi, qui, dès les années 1925, avait décidé de mettre un terme à ce qu'ils appelaient la science juive. Au début des années 25, on assiste à une montée d'un antisémitisme scientifique, et en particulier donc à une chasse à l'homme, il faut le dire, dirigée spécifiquement contre les savants juifs, et en particulier, évidemment, Einstein. Einstein sera obligé de fuir l'Allemagne, qui devient pour lui extrêmement dangereuse, alors qu'il était professeur à l'université de Berlin. Il fuit l'Allemagne et le régime nazi va mettre sa tête à prix.
Ça paraît
3 millions d'euros, équivalent de 3 millions d'euros d'aujourd'hui.
Mais tout à fait au début du régime, puisque ça se passe en 1933, Einstein quitte ce régime et ce pays qui est devenu absolument invivable pour lui.
1933.
Bien entendu. Alors, à partir du milieu du siècle, on va dire que la théorie est globalement admise en dehors des petits problèmes de ces régimes totalitaires. Les scientifiques sont convaincus de cette expansion de l'univers.
Disons que la moitié à peu près des scientifiques sont convaincus qu'il se passe quelque chose autour de cette fameuse fuite des galaxies. Mais ils ne sont pas tous convaincus. Loin de là.
On la calcule, la vitesse de fuite, hein, d'ailleurs.
Oui, bien entendu. Il y a une relation entre la distance et la vitesse, évidemment, de ces galaxies.
C'est ce qu'on appelle le taux d'expansion fixé par Hubble. Mm-hmm. C'est la loi de Hubble, n'est-ce pas, qui détermine un taux d'expansion très précis.
Très précis. Cependant, tous les scientifiques ne l'acceptent pas. Et malgré la victoire inouïe de Hubble, on reste encore très sceptique. Et en particulier, l'un d'entre eux, qui est un très grand astronome, c'est l'astronome royal à Cambridge, il s'appelle Fred Hoyle. Fred Hoyle est un farouche adversaire de cette théorie. Alors voilà que de nouveau...
Les Anglais sont rarement pour la révolution.
Rarement. C'est vrai. Et là, on a un conservatisme assez acharné. Et voilà que de nouveau, cette idée qui est entraînée par quelqu'un comme Hoyle, qui est extrêmement puissant, il a une sorte de magistère sur l'ensemble des astronomes dans le monde, eh bien, on en arrive à cette idée qu'après tout, oui, peut-être l'univers est quand même statique, après tout. Même si on constate une fuite des galaxies, ça ne veut pas dire que l'univers dans son ensemble est en expansion. C'est ça que disait et prônait de manière farouche Fred Hoyle.
Avec ce problème toujours, parce que l'expansion en soi, on a envie de dire pourquoi pas, ce qui gêne un certain nombre de scientifiques, c'est le point de départ, c'est la création, et c'est Hoyle qui va parler de Big Bang du reste.
Oui, le 28 mars 1949, voilà qu'il est invité dans les studios de la BBC, un petit peu comme ici, et puis on le presse de questions, on lui dit « Mais est-ce que ce Gamow qui soutient que l'univers a une origine très chaude il y a très longtemps, est-ce que ça vous paraît vraisemblable ?» À ce moment-là, il sursaute, il est de plus en plus en colère parce qu'il entend de plus en plus parler de ce Gamow, et il dit « Mais enfin, mais vous imaginez quand même pas que l'univers est né ?» Et puis il cherche ses mots, et il dit « Mais dans un Big Bang, il a un sourire cruel, et voilà qu'il pense avoir asséné pour toujours un coup fatal à la théorie du Big Bang. »
Eh oui, sauf qu'il vient tout simplement de la nommer, en l'occurrence.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang aux éditions Le Courrier du Livre. C'est le titre de l'ouvrage de Grishka et Igor Bogdanov que vous recevez cet après-midi, Franck Ferrand, pour tenter de nous l'expliquer,
et
cette
voilà,
fameuse
théorie. Voilà, nous n'avons pas 3 minutes, nous en avons 60. C'est assez agréable et pratique. Et pour tout vous dire, ce n'est pas une émission difficile à faire puisqu'il suffit de feuilleter l'ouvrage de Grishka et Igor Bogdanov, puisque ce que je fais, c'est tout simplement de passer d'un chapitre à l'autre en suivant exactement ce qu'il nous raconte de cette manière très vivante et très, très incarnée qui les caractérise. Alors, il faut suivre cette théorie, puisque là, on était dans l'immédiate après-guerre, en quelque sorte. Arrive 1964, Igor Bogdanov, l'écho du Big Bang.
Une date, oui, et en plein doute, parce qu'à l'époque, donc, on était en plein doute, on ne savait pas, on ne savait plus si vraiment l'univers était doté de cette fameuse expansion qui allait le ramener vers l'origine. On pensait que quelque part, comme Fred Hoyle le disait, on pensait que l'univers pouvait être fixe.
Or, il se trouve que deux jeunes gens sont installés à Holmdale, dans le New Jersey, et depuis un an à peu près. Ils ont pour mission, ils travaillent dans une compagnie de téléphone, la fameuse compagnie Bell, très connue aux États-Unis. Ils ont pour mission de calibrer le temps de communication entre le sol et les satellites. Parce que, évidemment, à l'époque, on songeait déjà à l'Eurovision. C'est-à-dire, en fait, on voulait communiquer avec la planète tout entière en même temps. Donc, ces deux jeunes gens sont, depuis un an à peu près, à la tâche. À ceci près que, depuis à peu près une semaine, ils sont très ennuyés. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'ils écoutent les communications qui sont émises, enfin les signaux émis par le satellite, ils recueillent bel et bien les signaux du satellite, mais ils recueillent aussi autre chose. Ils entendent un bruit qui ne devrait pas être là. Une sorte de bruit parasite. Alors ils se demandent, mais quelle est l'origine de ce parasite ? D'où vient ce bruit ? Alors ils commencent par fouiller l'antenne, ils regardent, ils voient qu'il y a, tiens, un nid de pigeon là,
ils
juste sous les poutrelles.
Il y a un effet de l'arsène.
Ils vont grimper là-haut, à 10 mètres du sol, ils vont faire de l'escalade, ils vont se débarrasser, nettoyer le fameux nid de pigeon, et puis, hélas, ils se rendent compte que le bruit est toujours là. Ils vont réorienter l'antenne, ils se disent, ça vient peut-être du sol, ou ça vient peut-être de la ville voisine, de Holmdale. Rien n'y fait, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce bruit. Et un jour, alors qu'ils sont littéralement plus que perplexes en face de ce mystère, un de leurs collègues, ils sont en route vers l'université de Princeton, qui n'est pas loin de là, un de leurs collègues les croise par hasard dans le train et leur dit, mais il se confie à lui, il dit, mais voilà, nous entendons un bruit, de quoi s'agit-il selon toi? Et l'autre lui dit, mais je crois que j'ai une explication à ça. Et là, cette explication va être absolument cataclysmique parce que ils lui disent, écoutez, je pense que vous avez entendu ce que nous cherchons à Princeton et nos collègues depuis 2 ans maintenant. Je pense que vous nous avez battus sur le fil parce que ce que vous entendez, c'est tout simplement l'écho du Big Bang.
Extraordinaire. Ah, oui. Donc c'est comme si on l'entendait d'une certaine manière. Et c'est un écho qui n'en finit plus. On est en 1964 à ce moment-là?
On est en 64, en mai 64.
Est-ce qu'en 64, tout le monde a enfin adopté la théorie du Big Bang?
Oui, très rapidement, cette hypothèse du bruit du Big Bang se confirme. On fait des mesures, des contre-mesures, on vérifie. Et dès 1965... la communauté entière reconnaît l'immense révolution. C'est l'écho, le bruit lointain, très amorti du Big Bang qu'on entend. Ça correspond aussi à une température. Le Big Bang, au moment donc où il se déroule, c'est-à-dire donc il y a 13 820 millions d'années, comme vous l'avez dit très justement, la température est très élevée. Elle est de 10 puissance 32 degrés, c'est-à-dire 100 000 milliards de milliards de milliards de degrés.
Oh mon Dieu.
Hein, c'est vraiment très élevé.
Oui, ça commence à faire chaud.
Ça commence à faire chaud. Mais pendant toute cette période de dilatation qui dure depuis 13 milliards d'années, eh bien évidemment, la température, elle décroît, elle tombe. Et aujourd'hui, figurez-vous que dans le vide, elle est tombée juste à 2,7 degrés.
Au-dessus
du zéro absolu.
Donc ça pour nous,
c'est presque zéro absolu.
Et ça, c'est une température tout à fait compréhensible.
C'est une température compréhensible, alors que les 100 000 milliards de milliards de milliards, c'est vraiment autre chose. Eh bien, c'est tombé très bas. Et c'est cette température que nos deux amis Penzias et Wilson, en 64, dans ce beau printemps à Holmdel, dans le New Jersey, ont découvert. Parce qu'une température, ça correspond aussi à une longueur d'onde. Et donc, on entend aussi quelque chose. Alors, c'est comme un énorme choc qui aurait donné un coup de tambour qu'on entendrait encore, ou bien c'est comme un énorme feu qui serait encore un tout petit peu rougeoyant et dont on percevrait les braises.
Il faut parler aussi dans la série de ces duos qui ont fait l'histoire du Big Bang, de John Mather et George Smoot. Qui sont-ils, eux ?
Très important, ces deux personnages sont considérables. Parce que jusqu'à présent, on avait entendu ce bruit inouï qu'on appelle le rayonnement fossile, mais on ne l'avait encore jamais observé. Or, en 1989, voilà que deux jeunes gens, encore deux espoirs de la physique aux États-Unis, convainquent la NASA d'envoyer un satellite à 900 km d'altitude, et là, on va observer ce fameux rayonnement. Et
quel est le but de cette... C'est uniquement scientifique il y a...
C'est uniquement scientifique, mais on va faire une découverte, vous allez voir, la découverte d'une colossale puissance, d'une colossale portée. Car ce qu'on observe, c'est en effet un rayonnement qui correspond à la première lumière émise par l'univers, juste 380 000 ans après le Big Bang, à un moment où l'univers était 1000 fois plus petit et 1000 fois plus chaud qu'aujourd'hui. Donc l'univers, à cette époque-là, on le voit. Il n'y a encore ni galaxies, ni matière constituée, ni étoiles, évidemment pas de planètes, il n'y a rien qu'un gaz chaud. Sauf que, et c'est de là où évidemment l'importance de la découverte nous frappe aujourd'hui encore, on observe de toutes petites différences de température entre les points froids et les points chauds de cette première lumière. Un 100 000ème de degré en plus, et on a des points chauds qui sont en rouge dans cette espèce d'ellipsoïde avec ses taches rouges et ses taches bleues. Le rouge va donner lieu à la matière, et le bleu, ce sera plus tard le vide entre les galaxies. Et là, on observe donc la carte de l'univers naissant, le bébé univers, juste en l'an 380 000, il y a 13 milliards et 820 millions d'années.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait il y a 13 milliards et 830 millions d'années? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir du moment où l'on fixe, ça c'est un phénomène universel, à partir du moment où l'on fixe une origine, on cherche à savoir ce qui se passe avant l'origine. C'est d'ailleurs tout le danger, si je puis dire, aux yeux d'un certain nombre des scientifiques du XXe siècle, de cette théorie du Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a avant?
Alors, pour répondre à cette question, je fais appel à deux grands esprits. Le premier, c'est Pythagore. Pythagore qui dit, et il a eu une intuition absolument formidable, il dit « Tout l'univers qui nous entoure repose sur une brume de nombres ». Ça, c'est une première chose, une première pensée que je trouve absolument extraordinaire.
C'est un peu on pourrait presque dire que c'est la définition, c'est le point de départ de la pensée scientifique occidentale, ce que vous êtes
exactement
en train de dire.
Exactement ça. Et elle est complétée, cette pensée-là, par, en 1609, celle de Galilée, qui, après avoir plaqué son œil, vous savez qu'il a été l'inventeur en 1609 de la fameuse lunette astronomique. Eh bien, après avoir observé la Lune, les cratères, les vallées, après avoir eu ce spectacle de l'univers, dans son œil, il prend son petit carnet et il écrit un soir, donc de décembre 1609, décidément, la nature est écrite dans un langage mathématique. Alors ça répond à la question. Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant que l'univers physique n'apparaisse? Eh bien, il y avait ce que Pythagore appelle la brume des nombres. C'est-à-dire, en fait, il y avait des équations. Il y avait une information, qui est une information qui vient structurer le scénario cosmologique qui fait que lorsque l'univers émerge, au moment du Big Bang, à 10 puissance, moins 43 secondes après l'instant zéro, eh bien, il est structuré. Le scénario est déjà là. Il n'y a pas de chaos. Il y a un scénario qui était extrêmement précis et qui permet de rendre compte du déroulement de toutes les phases de développement de l'univers.
Certains disent il n'y a somme toute pas d'origine, puisque ce que nous prenons pour le point d'origine n'est qu'un point de passage. Et d'ailleurs, plutôt que d'un Big Bang, ils parlent d'un Big Bounce. Et ils disent que, en quelque sorte, l'univers serait dans un schéma de respiration avec des phases d'expansion et des phases de contraction. Expirer, inspirer, si je puis dire. Et qu'en ce moment, on serait dans une phase d'extension qui, un jour, se transformera en phase de contraction. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Grishka?
C'est une théorie que l'on adoptait très volontiers jusque vers le début des années 2000.
Vous allez dire que je suis un petit peu dépassé là. C'est ça, bon, d'accord.
Non, j'ai bien compris. À peu près une quinzaine
Quelle
d'années.
Quelle politesse.
Non, vous avez montré tout à l'heure une telle maîtrise, je n'oserais jamais. Donc, en réalité, une découverte fondamentale a mis fin, et pour toujours, à cette théorie de l'expansion-contraction et de cette respiration en quelque sorte de l'univers. On sait aujourd'hui que l'univers non seulement est en expansion, mais qui plus est en expansion accélérée. Accélérée par quoi? Eh bien, par une énergie qu'on appelle aujourd'hui l'énergie noire, énergie très mystérieuse d'ailleurs, que les physiciens ne comprennent pas très bien, et qui cependant est un champ scalaire qui va accélérer cette fameuse expansion de l'univers de telle sorte qu'elle ne reviendra plus jamais en arrière. On n'aura plus jamais de contraction de l'univers. Donc cette expansion qui a commencé il y a 13 milliards et 820 millions d'années, elle va se poursuivre pendant des milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'années.
Face à ce mystère, écrivez-vous, les hypothèses ne manquent pas. La plus en vogue aujourd'hui est que l'énergie noire serait une variante de la célèbre constante cosmologique d'Einstein. Décidément, c'est assez étrange de voir qu'on y revienne. En unité de Planck, sa valeur serait seulement, et alors là, attention, de 10 exposant moins 120.
Oui, alors là, on retrouve ce vertige face à la précision des chiffres, parce que on est en face de très grands nombres. Or, ces grands nombres témoignent d'une effroyable précision. Cette précision qui est celle, par exemple, du taux d'expansion de l'univers au moment du Big Bang. S'il avait été de 0,00000, etc., 1% plus haut ou plus bas, eh bien, l'univers ne se serait jamais constitué. Il se serait soit dilaté très rapidement, trop rapidement pour que la matière se forme, soit il se serait contracté à nouveau au bout de quelques secondes et on n'aurait plus jamais entendu parler de l'univers. Donc, voyez-vous, il y a là une sorte de précision qui est de l'ordre de 10 puissance 120. C'est-à-dire qu'on avait 1 sur 1 milliard de chances, une seule chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de possibilités
pour que ça
se produise. 1 sur 10 puissance 120.
Qu'y avait-il avant le Big Bang? Pourquoi a-t-il eu lieu? Quel est le sens de l'évolution cosmique? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles Grishka et Igor Bogdanov répondent dans 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang dans la collection du courrier du livre, cette collection 3 minutes pour comprendre, avec une préface justement de John Matter, ce prix Nobel de physique dont nous parlions tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir un peu éclairé notre lanterne de littéraire. C'est difficile la science, mais c'est tellement passionnant.
Dans un instant, instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Stanislas sur l'origine de la plume blanche que les femmes donnaient aux soldats réformés lors de la Première Guerre mondiale.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Stanislas, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission, qui regarde la série d'Anton Abbé.
Ah, voyez.
Et voilà, et qui nous dit que dans un épisode, si je ne m'abuse, c'est la saison 2, des femmes remettent une plume blanche à certains hommes qui ne sont pas partis à la guerre de 14-18 et nous demandent quelle est l'origine de cette pratique.
Mais est-ce que vous savez, Céline, comment on dit poule mouillée en anglais? C'est chicken, tout simplement, c'est le poulet. Ça vient de là, hein, tout simplement. La plume blanche est dès lors un symbole de lâcheté, et ce depuis au moins le 18e siècle, peut-être plus longtemps encore. Cette symbolique est du reste le point de départ d'un roman d'aventure, un roman britannique qui s'appelle « Les quatre plumes blanches » de Four Feathers, qui a été écrit en 1902 par un certain Mason. Et dans ce roman, quatre jeunes gens sortent d'une école militaire et doivent rejoindre leurs unités au Soudan durant la guerre des derviches. Il y en a un qui démissionne la veille du départ et les trois autres, ainsi que sa fiancée du reste, lui remettent une plume blanche. Et à partir de là, il va tout faire pour prouver son courage et restituer à chacun sa plume blanche. Donc, c'est de là qu'est venue cette habitude au début et même jusqu'au milieu de la Première Guerre mondiale d'offrir, enfin de donner une plume blanche pour désigner ceux qui, ayant échappé aux mailles du filet, en quelque sorte, étaient considérés comme des lâches. Ce sera le cas non seulement sur le territoire britannique, mais également au Canada. On a des témoignages assez poignants de ça. Ça devait être assez terrible, hein, d'ailleurs, bien entendu. Alors que, il faut le savoir, dans d'autres pays, la plume blanche, je ne parle pas du panache blanc de notre cher Henri IV, mais la plume blanche peut au contraire être un symbole de bravoure, je pense aux États-Unis tout simplement. Sachez que dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam, un sniper du corps des marines, qui s'appelait Carlos Hathcock, avait pris l'habitude d'arborer à son chapeau une grande plume blanche.